Bienvenue à chacun, à chacune. C'est une joie de pouvoir vous voir ensemble, réunis. Je m'appelle Tom, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai été dans cette église pendant 2 ans et demi, avant donc d'aller dans cette nouvelle implantation à Etterbeek. L'église s'appelle Emmanuel Etterbeek. On n'a pas de bâtiment, on se réunit dans une école tout près de la station Mérode. On est à peu près 35 adultes, 10 enfants chaque dimanche. Et c'est une joie d'être ici avec vous. Si vous avez une Bible à portée de main, on va lire 2 chapitres de la Bible ensemble. Dans le livre de Job, et nous allons faire cela ensemble. Donc le livre de Job se trouve juste avant les psaumes. Nous allons lire Job chapitre 1 et Job chapitre 2. Et avant de faire cela, je propose que nous prions et demandons l'aide de Dieu, tant pour ma bouche que pour notre réflexion. Notre Père Céleste, merci parce que tu es présent parmi nous. Et tu nous dis, heureux l'homme qui médite ta parole jour et nuit. Il est comme cet arbre planté près d'un cours d'eau. Et nous voulons être comme cela. Notre expérience au jour le jour n'est pas toujours identique à cela. Mais nous voulons venir nous ressourcer ce matin, à être encouragés, édifiés personnellement, ensemble, en communauté. Fais ton œuvre, opère cette grâce en nous et donne-moi de la fidélité, de la clarté dans mes propos pour que j'expose avec droiture la parole de vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Job, c'est un long livre. Job, c'est 42 chapitres. C'est l'homme qui a souffert intensément, et qui pose la question à Dieu, pourquoi je souffre? Et par la suite, il va être entouré par ses amis. Et puis à la fin de l'histoire, il y a une résolution. Et ce matin, on va faire Job chapitre 1 et 2. Et le titre de cette prédication, c'est « La souffrance et la foi ». Je lis à partir du verset 1er. « Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. » Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à leur tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint l'Éternel? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui et sa famille, et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Et l'Éternel Dieu dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses broutaient à côté d'eux, et des sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée. Et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « La foudre est tombée du ciel, elle a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « Des Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont mort et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Et Job se leva alors et il déchira son manteau, il se rasa la tête, puis il se jeta par terre et se prosterna et dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Un autre jour, chapitre 2, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. Et il persévère dans son intégrité, et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. » Satan répondit à l'Éternel, « Ah, peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Et l'Éternel Dieu dit à Satan, « Le voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité ? Maudit Dieu et meurs. » Et Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. » Dans tout cela, Job ne péchait pas de ses lèvres. Les trois amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappés. Il s'agissait d'Éliphaz de Théman, de Bildad de Shuar, de Tsophar de Nama. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et se jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Jusque-là, la lecture. Quelle histoire, n'est-ce pas ? Quelle belle histoire d'un homme qui est intègre et droit, mais qui souffre. Et tout le monde va souffrir à un moment donné. Tout le monde va souffrir. C'était Benjamin Franklin, l'un des fondateurs des États-Unis, qui avait dit « Dans ce monde, rien n'est certain, sauf la mort et les impôts. » Les grandes certitudes de la vie, il y a mourir et payer ses taxes, et on pourrait y ajouter souffrir, puisque souffrir est proche de l'expérience. Souffrir, petite souffrance, grande souffrance. Soit on souffre personnellement, soit on voit d'autres que nous aimons souffrir. Personne n'est à l'abri, en fait. Même la personne la plus chanceuse que vous puissiez imaginer va un jour souffrir, ou voir d'autres souffrir. Même la personne la plus riche et qui réussit à tous les niveaux que vous voulez n'est pas à l'abri. Même la personne la plus assurée n'est pas à l'abri. Même la personne qui possède tout ce que vous voulez. Même le croyant, en fait. Même le chrétien n'est pas à l'abri. Et la vie peut être très très dure, on le sait tous. On a un petit peu parlé de ça ce matin déjà, dans la présidence. Souffrance peut-être liée au travail, c'est peut-être votre cas, des études ou un travail pénible, peu épanouissant, un cadre professionnel compliqué, un patron abusif, la persécution des collègues, un comportement absolument inacceptable d'un collègue ou d'un manager, le favoritisme, l'injustice salariale, des souffrances peut-être liées à la famille, et c'est peut-être encore votre cas, des relations distantes, des disputes non réglées, un manque de pardon, une pression familiale irréaliste sur vous, des parents peu présents, un mari non-croyant, ça c'est pas évident, des enfants non-croyants, des enfants qui sont devenus adultes mais très instables, des addictions, peu de moyens. Peut-être souffrance liée au couple, mal-être dans le célibat, mal-être dans le couple, si c'est possible. Infertilité dans le couple, fausse couche, peu ou aucune intimité dans votre mariage, des tensions, des disputes régulières, l'instabilité ou la dépression chez le conjoint. Et je n'ai pas encore parlé de la souffrance de la maladie et les souffrances plus générales dans le monde, les guerres, les famines, les catastrophes de la nature, le terrorisme, les faits divers, le sentiment d'instabilité, et ainsi de suite. Le théologien Christopher Ash a écrit un excellent commentaire sur Job, et il parle de ce qu'on peut poser la question de la souffrance à partir de deux fauteuils. On peut poser la question de la souffrance à partir du fauteuil du salon, où je pose mes questions plutôt de manière philosophique. Pourquoi Dieu permet la souffrance? J'y réfléchis, mais je ne suis pas moi-même atteint par la souffrance. Et puis, je peux aussi être dans un autre fauteuil, le fauteuil roulant. Et je suis au milieu de la souffrance lorsque je pose cette question, et c'est bien différent. Je me demande dans quel fauteuil vous vous trouvez actuellement, fauteuil du salon, et vous posez la question au fauteuil roulant. Il ne faudrait pas tout mettre dans le même sac. Il y a une grande diversité de souffrances. Et il y aura probablement un éventail de réactions différentes à avoir. Il y a bien sûr la souffrance générale qui touche tout le monde, qui est générale parce qu'on vit dans un monde qui est déchu et brisé, après Genèse 3. Ça nous touche tous. On aura tous un rhume à un moment donné. Ce n'est pas parce qu'on a été particulièrement méchant le jour avant. C'est juste parce qu'on vit dans un monde brisé. Ou il y a parfois le péché des autres dont je souffre. Il y a quelque chose de méchant chez quelqu'un d'autre et je subis cela. Et nous sommes parfois victimes. L'enfant d'un père alcoolique va en souffrir. Il n'a rien demandé, mais il va en souffrir. Parfois, c'est mon propre péché et j'en souffre. Si j'accumule les partenaires sexuels, je vais en souffrir probablement dans mon corps. Et parfois, la Bible parle de la discipline de Dieu qui nous éprouve, il nous afflige dans ce sens-là. Parfois, la Bible parle aussi de persécution. Parce que je suis attaché à la foi et j'en souffre, parce que je prends le nom de Christ. Et parfois, la Bible parle aussi d'une oppression satanique particulièrement forte, où Dieu nous explique, dans ce chapitre par exemple, que Satan est à l'œuvre, il se tient derrière. Permettez-moi de parler un peu personnellement. Mon épouse et moi avons connu certains moments, pas dans notre couple, mais dans notre vie en général, de souffrance, des moments pénibles où on a pleuré et on se tord le visage et on ne sait pas comment on voit avancer et on souffre. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Et ma prière, c'est que cette prédication puisse nous équiper tant de manière préventive que dans l'instant présent, si c'est votre cas que vous souffrez. Et peut-être que c'est aussi l'opportunité de confronter certaines de vos luttes que vous avez gardées sous silence, d'en parler avec un frère, avec une sœur, dans votre couple peut-être, dans la discrétion et dans la confiance, et de les amener aussi à Dieu, parce que Dieu est présent même dans la souffrance, on va le voir. Et on a donc besoin de cet enseignement pour être équipé pour la vie, non pas qu'on aura toutes les réponses à la souffrance, il me semble que Dieu ne nous promet pas cela, mais pour réagir avec sagesse, parce que c'est un livre de sagesse, Job. Le danger de la souffrance, c'est que ça peut engendrer un sort de tremblement de notre foi. Vous vous rappelez peut-être la parabole du semeur. Et il y a cette terre qui reçoit la parole de Dieu, mais qui, à travers les difficultés et les persécutions, abandonne à cause des difficultés. Les difficultés peuvent engendrer un tremblement. Et donc, tout commence, on va voir cela ensemble, merci de garder cela ouvert si vous avez une Bible, et on va regarder ça ensemble. Tout commence avec Job, un homme qui est sage, un homme intègre et droit. Verset 1, il y avait dans le pays d'Uts, un homme qui s'appelait Job. On connaît son prénom, c'est un personnage historique, ça s'est vraiment produit, ce n'est pas un conte de fées ou une fable, c'est une histoire, et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament l'attestent comme un personnage historique. Et ce qui est plus important que sa famille et sa vie, c'est son caractère. On lit qu'il était intègre et droit. Une belle manière de parler d'un homme. Intègre et droit. Intègre nous parle de sa foi authentique envers Dieu. Ce n'est pas juste pour faire semblant. Et droit, ça nous parle de sa manière de se comporter vis-à-vis des autres personnes autour de lui. Il était juste. Et on lit aussi qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est une expression importante qui est répétée dans ce livre. Il craint Dieu et se détourne du mal. Vous le savez, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ne pas avoir peur de Dieu dans ce sens qu'il pourrait être contre moi, mais crainte dans le sens « il est plus grand que moi, j'ai intérêt à être du même côté que lui et je le suis à travers Christ, mon Sauveur ». Job n'est pas un homme parfait, mais un homme croyant. Et il n'est pas sauvé par ses œuvres. Comme toute autre personne qui est approuvée par Dieu depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, il est déclaré juste sur la base de la foi. Et il le dira dans ce livre, « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et on lit aussi verset 3 qu'il est un homme très important, un prince dans la région. Il est riche, même pour son époque, un très grand nombre de troupeaux et de staff. Il est béni, il a 10 enfants. Et ses enfants célèbrent, sans doute ici il est question d'anniversaire qu'ils célèbrent, plutôt que de guindailles remplies de débauches, c'est plutôt des fêtes bon enfant. Et Job est zélé pour prier pour ses enfants, et en quelque sorte il intercède pour ses enfants d'une manière qui anticipe le système des sacrifices dans la loi de Moïse, qui paye pour leurs péchés. Et il répète cette pratique, il prie pour ses enfants et il fait cela. Son souci est que ses enfants grandissent croyants et ne maudissent pas Dieu dans leur cœur. Et donc on a Job qui est un homme qui vit bien, un croyant. Mais ça va changer de scène à partir du verset 6. On passe de Job, vous avez remarqué, à une scène céleste. Et c'est très étrange. On a l'éternel Dieu et le diable dans la même salle. Ça fait quand même tilter. Et Dieu reste sur le trône à tout moment. Et différents personnages célestes se présentent. Et Satan, l'accusateur, se présente. Et on a droit à cette conversation entre Dieu et Satan, très particulier, comme dans la salle de cour céleste, où la partie adverse lance des accusations. Et Satan est là, et Satan accuse Dieu concernant Job, une accusation très très forte. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection ? Et c'est ceci l'accusation. Si Job est croyant, ben, c'est uniquement parce que Dieu l'a béni. N'est-ce pas ? Tu vois Job, il a tous ses enfants, il est riche, il est béni. D'accord, il est intègre et droit, mais c'est un peu facile qu'il ait la foi, puisqu'il est béni. Il n'a la foi que parce qu'il est béni. Soyons clairs, dit Satan, personne ne t'aime Dieu, vraiment. Tu n'as aucun disciple, aucun croyant. C'est seulement sur base des trucs que tu leur donnes. Voilà la question que ces chapitres nous posent. Retire-lui toutes ces choses, tu verras. Il ne va plus croire en toi. Et toi qui crois en Dieu, toi qui écoutes sa parole, tu as accepté Jésus comme sauveur au-dessus de ta vie pour le pardon de tes péchés. Tu espères en lui, tu regardes vers lui pour une vie éternelle avec lui et ta foi est sincère. Et on peut te poser cette question à partir de ce texte et je me pose la même question. Est-ce que ta foi est réellement authentique? Ou est-ce que tu es seulement chrétien parce que tu as une vie plus ou moins confortable aujourd'hui? Ta foi est-elle conditionnée par l'absence de souffrance ou par le fait de mener une existence plus ou moins confortable? Est-ce que tu continuerais à suivre le Seigneur Jésus si tu perdais ta santé? Est-ce que tu continuerais à suivre Jésus si tu avais des grosses, grosses difficultés dans ta vie? Existe-t-il un niveau de souffrance à partir duquel tu cesserais d'avoir un amour pour Jésus-Christ ? Bonne question. Et Satan accuse Dieu, verset 10, « Tu as entouré Job d'une haie. » Tu as mis une haie autour de lui, c'est trop facile. Enlève la haie et on verra ce qui se passe. Et voici mes deux cartes comme aide visuelle pour ce matin. Dieu, voici son défi. Job va-t-il maudire Dieu ou va-t-il bénir Dieu à la fin de cet épisode ? Et toi, face à la souffrance, est-ce que tu vas maudire Dieu ? Ou est-ce que tu vas dire je bénis Dieu encore ? Pas bénir Dieu dans le sens « Hourra, j'ai encore des souffrances !» Non, je vais continuer à adorer Dieu comme mon seul Dieu. Je vais le suivre. Et on va voir dans ce texte si l'accusation de Satan, ça tient ou pas. Et on vient de Job à l'accusation, aussi à la souffrance de Job. Et ce qui est peut-être plus surprenant dans ce récit, c'est que Job est là et Dieu accepte que Satan lui déverse plein de souffrances sur lui. Fort surprenant cela. Je pensais que Dieu est bon et sage et pourtant ça fait partie de sa providence pour Job de lui laisser souffrir. Et en même temps, vous l'avez remarqué dans la lecture, Dieu reste aux commandes et il ne permet pas à Satan d'aller un millimètre plus loin que ce qu'il lui permet. Au début, tu n'atteindras pas son corps physique. Et puis à la seconde fois, tu ne le tueras pas. Satan ne va pas un millimètre plus loin. Dieu est puissant, Satan est une créature limitée. Et nous lisons tout de même que le même jour, Job perd les bœufs et les ânesses, et les brebis et les serviteurs, et les chameaux. Et ça, on peut encore comprendre, ça va. C'est pas le pire. Et puis on lit les versets qui sont très très difficiles à lire, versets 15 à 19. Un autre messager arriva et dit « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin, un grand vent est venu et a frappé les quatre coins de la maison et ils sont morts. » Perdre un enfant, ce serait terrible. Moi j'ai deux enfants. Père de 10 enfants, le même jour. C'est ce que Job a vécu. Job perd tout ce qu'il a, sauf sa femme. Et à la fin du chapitre 2, il perd même sa santé. Du plus bas jusqu'en tout haut, il a cette situation, c'est horrible. Et cela nous mène à la réaction de Job. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu ? Est-ce qu'il va dire... Je te maudis ? Est-ce qu'il va dire, je continue à te bénir ? Regardez avec moi la réaction au verset 20. Job se leva, il déchira son manteau, il se rasa la tête, et il se jeta par terre et se prosterna, fin du verset 21, et il dit, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Vous voyez, il continue de bénir Dieu, même dans la souffrance. Et à la fin du chapitre 2, lorsque sa femme voit qu'il perd sa santé à ce moment-là, elle l'encourage de faire quoi ? Maudit Dieu. Et meurt. Et la pression est intense. Mais même la deuxième fois, Job réagit, verset 10, « Tu tiens le langage, non pas de la sagesse, mais de la folie. » Nous acceptons le bien de la part de Dieu, mais aussi nous devons accepter le mal. Le mal dans le sens... Pas que Dieu envoie le mal, Dieu est responsable de mal, mais la ruine que Dieu permet dans cette situation. Et franchement, dans cette histoire, je me dis, mais comment est-ce que Job réagit comme cela ? Enfin, ça vient d'où, ça ? Est-ce que je pourrais avoir ça dans ma réaction en tant que croyant ? Ou est-ce que c'est juste tellement impossible ? Regardons le détail, verset 21 nous donne la clé. Il dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. On comprend ici, il me semble, toute la sagesse de Job. Il a compris que concernant sa vie, quand il est né, il avait les mains vides. Et quand il meurt, il repartira les mains vides, il ne prend pas avec lui On pensait aux Égyptiens et aux pharaons qui essayaient d'emmener avec eux tout leur or. On voyait ça dans les sarcophages. Non, non, tu n'emportes rien avec toi à la mort. Tu es nu à la mort, tu es nu à la naissance. Et donc tout ce que tu possèdes dans cette vie, tout ce que Job possède, ses bœufs et ses enfants, n'est en sorte que de la location. La location pendant quelques années. Et Dieu nous demande de garder cela, avoir une responsabilité sur ces choses. Et il craint Dieu, il se soumet avec ses possessions, avec, sans ses possessions, il craint Dieu. Et il accepte que tout vient de Dieu, au final, n'est-ce pas ? Dieu a le pouvoir de donner la vie, Dieu a le pouvoir de reprendre la vie. C'est à lui que revient ce privilège en tant que Dieu. Il a compris que sa vie n'est pas un droit, n'est pas un dû, mais un cadeau. Il comprend que Dieu reste aux commandes, même dans la souffrance. Il sait que Dieu n'est pas responsable du mal, il n'attribue pas le mal à Dieu, mais il sait que Dieu est souverain sur toute chose, même la souffrance. Et donc il continue de bénir Dieu, et il continue de se soumettre à Dieu, son rédempteur, son créateur, celui qui est aux commandes. Pensons à nous et au lien qu'on a avec Job. Job est un homme intègre, un homme droit, un homme sage. Et l'accusation de Satan, c'est si Job est croyant, c'est parce que Dieu l'a béni. Enlève-lui les bénédictions matérielles, je suis sûr qu'il va te maudire, dit Satan. Mais Job persévère dans la foi et il bénit l'Éternel. Et donc nous voyons ce matin, et voici la leçon, que la vraie foi, la foi authentique, est celle qui peut même perdre l'essentiel de ce qu'on a et continuer à marcher avec le Seigneur. La foi véritable ne dépend pas des bénédictions qu'on reçoit dans cette vie terrestre. La foi sincère, elle persévère même quand c'est difficile et quand c'est pénible, même quand on ne voit pas très clair. Et la foi chrétienne ne considère pas Dieu comme une sorte de génie qu'on doit frotter et qui me donne des choses. On peut prier Dieu pour beaucoup de choses, mais il reste aux commandes. Est-ce que tu veux partager la sagesse de Job ? J'imagine que nous sommes reconnaissants pour beaucoup de bénédictions matérielles dans nos vies, n'est-ce pas, notre famille, notre argent, notre intellect, notre situation professionnelle, notre logement, nos hobbies. Mais ce n'est pas sur la base de ces choses-là qu'est notre foi. Non, nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, quelles que soient les circonstances, que nous vivions pour l'honneur de Christ, à son service, même dans la difficulté. Les chrétiens peuvent perdre ces choses et encore croire, n'est-ce pas ? Et encore croire, même si c'est difficile, et pour Job c'était très difficile, c'est extrême. On a des expressions dans notre langue française, il me semble, qui vont à l'encontre de ce que Job avait compris. C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. Parfois on entend dans les reportages, vous voulez trouver votre maison de rêve, votre maison pour toujours. Non, il n'existe pas une maison pour toujours. Maison en location dans un sens. Tu peux être propriétaire, mais ce n'est pas pour toujours, puisque cette vie n'est pas pour toujours. On parle d'un mariage et d'un amour éternel. Oui, j'ai compris, je suis romantique aussi, mais ce mariage et cet amour n'est pas éternel, puisque Dieu a décrété que le mariage est jusque la mort. Pour ceux qui ont des enfants, ils vous sont confiés pour un très court moment, finalement. Très court. Vous avez une responsabilité, faites-le devant le Seigneur. Mais c'est Dieu qui leur donne la vie. Tout ce que vous pouvez accumuler dans cette vie, au final, les choses que vous aimez le plus, votre patrimoine immobilier, tout ce que vous voulez, au final, ne vient pas avec vous. Vous ne le prenez pas avec vous. Et donc Dieu a le droit de le reprendre s'il souhaite. Ma foi donc ne dépend pas de tout ce que je peux posséder. Job dit aussi, l'Éternel a donné, Dieu a repris. Dieu a la possibilité de reprendre des choses. et plus encore que ce que Job a connu, nous connaissons, bien sûr, le Messie, celui qui ne peut pas nous être enlevé, celui avec qui nous pouvons toujours garder. Dans l'Évangile, Dieu nous a donné abondamment et il a promis de ne jamais reprendre cela. Et ça, c'est une belle chose. La promesse par Jésus-Christ d'une éternité où le mal n'est plus, où Satan n'est plus, il est jugé, où le péché n'est plus qu'un long souvenir. Quelle grâce d'avoir des yeux pour regarder cela par la foi, cette vie où on ne sera plus assujetti à la difficulté. Et donc, à combien plus forte raison pouvons-nous dire que le nom de l'Éternel soit béni, nous qui avons Christ ? J'espère que cela nous réconforte, à nous qui souffrons. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui veut savoir, eh bien, pourquoi Dieu aurait-il permis cette souffrance dans votre vie ? Et je reconnais que je n'ai pas la réponse à cela. Et qu'il est possible que Dieu ne vous donne pas nécessairement la réponse à cette question avant son retour, le retour de son Fils. Mais vous pouvez tout de même, comme Job, dire, même dans l'incompréhension, je veux continuer à bénir Dieu, parce qu'il est mon Dieu, et ma foi ne dépend pas des circonstances. Et vous pouvez même dire, même si ça ne changeait pas ce que j'ai comme situation difficile, ta grâce me suffit aujourd'hui. Je conçois que ça soulève pas mal de questions et je vous encourage peut-être d'en parler entre vous et avec moi par la suite, avec vos anciens, pour que nous puissions trouver un réconfort parmi l'Assemblée en nous guidant vers le réconfort que nous avons en Jésus-Christ. Parce que Job nous enseigne, honore Dieu avec tout ce que tu as. Et que tu le perdes ou pas, continue de faire cela. Et vous voyez à la fin du chapitre 2, Job est méconnaissable. Il est défiguré, on ne le voit plus comme il l'était avant. Et on attend de lire la suite. On attend de voir ce que les soi-disant amis de Job vont lui proposer. Vous allez lire cela, ils ont des choses très très carrés et catégories à dire qui ne sont pas justes en fait. Et ils vont être repris à la fin du livre. Et on va voir aussi comment Dieu intervient à la fin du livre. Et ça, c'est pour un autre dimanche. En tout cas pour nous, que tu sois en train de souffrir ce matin, ou de souffrir un peu, ou de souffrir énormément, la même leçon, sois sage, comme Job dans la souffrance. Bénis Dieu, plutôt que de maudire Dieu. Prions ensemble. Notre Père Céleste, je prie pour notre assemblée, l'assemblée ici ce matin, que tu puisses toi-même réconforter ceux dans la détresse, dans la souffrance, dans la peine, des peines historiques, des peines récentes et actuelles aussi. Merci parce que tu es le Dieu qui chemine avec nous, qui nous invite à être proche de toi. Et merci parce que tu nous promets une fin à la souffrance. Et quand Jésus-Christ, Christ est venu dans ce monde pour prendre la douleur à notre place, un homme de douleur habitué à la souffrance, qu'il est notre sauveur. Et qu'en lui, nous avons l'espérance d'un monde où la douleur ne sera plus. Donne-nous, notre Père, d'être confiant en toi et d'être une bénédiction envers notre frère, notre sœur qui est dans la peine aujourd'hui. Que tu fasses ton œuvre pour la gloire de ton nom et que tu nous donnes la persévérance dans l'épreuve.